Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. Des soldats au garde-à-vous face à la Manche à la veille du jour J, des vétérans à la cérémonie à Portsmouth avec la reine et les présidents américains et français notamment, des vétérans aussi à Pegasus Bridge en Normandie, décoré 75 ans après. Gérard Collomb dans le collimateur de la justice, perquisition chez lui et à sa mairie de Lyon, des soupçons de détournement de fonds au profit d'une ancienne compagne. Au sommaire également ce soir, les Républicains, bientôt fixés sur l'élection du successeur de Laurent Wauquiez, en tout cas sur la date de cette élection, le revirement de l'armée au Soudan qui tend la main aux civils, nous sommes à Khartoum, un film fantastique en salle, Les Particules, et au téléphone sonne Fabienne, le plastique au bureau.
Eh bien oui, c'est votre bureau qu'on veut déplastifier aujourd'hui, votre entreprise, nous et ici Inter, on essaye, la preuve aujourd'hui, on progresse, c'est pas simple, on vous racontera, racontez-nous ce que vous faites dans votre entreprise et on vous aidera, en tout cas on l'essaye, à déplastifier, à laver les mugs, à remplir les gourdes et un peu plus, on l'espère aussi quand même, 01 45 24 7000.
Ils refont le même chemin 75 ans après un bateau militaire au départ de Portsmouth, direction les plages de Normandie, Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. 300 vétérans revivent leur départ pour le jour le plus long, le débarquement du 6 juin 44. Début des cérémonies côté anglais, Louise Baudet, sous les yeux de nombreux anonymes venus leur rendre hommage.
Sur l'immense pelouse du South Sea Common, vaste esplanade en bord de mer, on vit devant les écrans les dernières minutes d'un show historique complet, avec témoignages de vétérans, reconstitution, danse et musique, le coup de canon final. Puis le spectacle aérien de 25 avions militaires britanniques, dont les célèbres Spitfire et Hurricane. David de Portsmouth est ravi.
Fantastic, yeah. Really good show.
Son grand-père a combattu pendant les deux guerres, alors au moment où le Brexit creuse un peu plus le channel entre le Royaume-Uni et le continent, il tient à rappeler l'essentiel.
Les Anglais se sentent toujours pro-européens. C'est l'Union européenne qui nous pose problème, pas l'Europe. Nous aimons les Français, nous aimons les Allemands, aucun problème.
Un peu plus loin, Kerry, venu d'Oregon avec sa sœur, Robbie.
Notre père est un des vétérans. C'était un marine américain au D-Day. Il a 96 ans et on l'a amené d'Amérique jusqu'ici. Pendant toute mon enfance, j'ai entendu ces histoires. C'est important. 75 ans que nous n'avons pas eu de guerre, grâce à ceux qui se sont battus il y a 75 ans.
Mais nul besoin ici d'être directement concerné pour se sentir touché. Les vétérans occupent une place spéciale dans le cœur des Britanniques, venus en nombre aujourd'hui honorer la mémoire des combattants pour la liberté. Portsmouth, au Royaume-Uni, Louise Baudet, France Inter.
Trump, Trudeau, Macron, Merkel, 16 pays étaient représentés. La reine d'Angleterre aussi était là, 93 ans. La seule des dirigeants à avoir participé au conflit, elle a été mécanicienne sur des véhicules militaires. Certains ont lu un texte lors de cette cérémonie. Donald Trump, une prière de Roosevelt. Emmanuel Macron, la lettre d'un résistant de Besançon à ses parents, Henri Fertet, fusillé à 16 ans en 1943.
Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout. Et je chanterai sans brémeuse parce que c'est toi, ma chère petite maman, qui me l'a appris. Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture est peut-être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur quand même de mourir. 1000 baisers. Vive la France.
Le chef de l'État est désormais en Normandie pour le jour J demain, mais les commémorations ont déjà commencé aussi côté français, comme au mémorial de Pegasus Bridge, l'un des lieux symboles du débarquement avec le clocher de Sainte-Mère-Église. Ce pont métallique sur l'Orne à Bénouville, pris par la 6e Airborne, la 6e division britannique de parachutistes, aux premières heures du 6 juin, et qui fait de Bénouville le premier village libéré de France. 4 vétérans anglais ont reçu ce matin la Légion d'honneur, cérémonie touchante suivie par Béatrice Duguay.
Donald Mason, Alfred Nadbin, Len Truwin et Mary Scott ont tous plus de 90 ans aujourd'hui. Il y a 75 ans, ils servaient dans la Royal Air Force ou la Royal Navy.
Au nom du président de la République, nous vous décernons la distinction de la Légion d'honneur.
C'est François Hollande qui a décidé de décorer de la Légion d'honneur tous les vétérans alliés qui ont combattu en France. Et pour Mark Worthington, le conservateur du mémorial Pegasus, il faut marquer le coup autant que possible.
En Angleterre, il y a énormément de demandes. Les vétérans ne peuvent pas toujours aller à un consulat, à l'ambassade. On les envoie par la poste. Mais la Légion d'honneur par la poste, c'est pas terrible. Et donc, c'est pourquoi quand ils viennent ici, on fait une petite cérémonie.
Parmi les décorés du jour, donc Marie Scott, 17 ans 44, elle communiquait par radio avec le terrain depuis le centre de Portsmouth. Coup de feu, mitrailleuse, canon, elle a tout entendu du débarquement.
Vous entendiez les gars crier des ordres ou je ne sais quoi, mais vous entendiez les voix humaines crier et les coups de feu. J'étais terrifiée. Je me suis dit, mon Dieu, c'est la guerre pour de vrai. Ils ne sont pas en train de s'amuser sur les plages, ils sont en train de mourir. Et vraiment, l'énormité de la guerre m'a saisie.
Marie Scott, cheveux gris bien coiffés, sourire très doux, très british, est une authentique héroïne de l'ombre.
Béatrice Duguay pour cette cérémonie au Pegasus Bridge, avant celle demain donc en Normandie, en présence des chefs d'État et de gouvernement. Commentaire à Moscou, alors que Vladimir Poutine n'est pas sur les bords de Manche, il ne faut pas exagérer l'importance du débarquement et donc ne pas minorer le rôle de l'URSS dans la défaite sur l'Allemagne nazie.
Allez, les 19h06, Sébastien, France Inter poursuit sa croisade contre le plastique.
Deuxième journée spéciale avec Combini et une question ce soir, que deviennent les bouteilles et emballages que nous déposons dans les poubelles jaunes? On sait que la Chine a fermé ses frontières fin 2017, elle ne veut plus être la poubelle de recyclage des Européens. On sait qu'une partie est recyclée en Europe, mais beaucoup partent hors de l'Union dans des filières d'export plutôt opaques. Bonsoir Célia Kiret.
Bonsoir Sébastien.
Alors que deviennent nos plastiques?
Oui, c'est très opaque, mais pas marginal. Selon le Parlement européen, la moitié des déchets plastiques collectés en Europe sont en réalité exportés hors de l'Union. La France et ses voisins n'ont pas suffisamment de centres de recyclage. Jusqu'en 2017, ils partaient surtout en Chine, dans 80% des cas. Or, aujourd'hui, les déchets plastiques sont envoyés en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, selon la dernière étude du réseau d'ONG Gaïa. Pierre Condamine de Zero Waste Europe dénonce le côté toujours très obscur de ces réseaux.
C'est quelque chose d'extrêmement opaque. Légalement, juridiquement en Europe, on n'est pas censé exporter de plastique qui ne soit pas recyclable. Mais on voit qu'en fait, là-bas, il y a énormément de plastiques qui viennent d'Europe, qui sont de très mauvaise qualité et qui sont traités dans des conditions totalement désastreuses pour les populations de ces pays-là.
Et en effet, les États, comme la Malaisie, ne sont pas toujours au courant de ces trafics privés et souvent illégaux. Les déchets n'atterrissent pas forcément dans de vraies usines de recyclage.
Parfois, tout simplement, c'est un camion de déchets qui arrive dans une ville, dans un village. Il déverse tous les déchets dans le jardin d'un habitant. Et ensuite, ce qui n'est pas valorisable ou recyclable, il va le brûler, ce qui va forcément avoir un impact énorme sur sa santé et sur la communauté autour.
Et en effet, ces déchets finissent dans les rivières, les océans, alors forcément les pays se rebellent. Après la Chine, la Malaisie a décidé de retourner à l'envoyeur des centaines de tonnes de déchets plastiques. Depuis 2016, ses importations de plastique avaient même triplé. Elle a fermé 150 usines illégales de recyclage, mais le contexte juridique évolue. Un accord de l'ONU signé début mai permet désormais aux pays concernés d'avoir plus de transparence sur ces déchets plastiques importés. Ils peuvent donc refuser ces déchets polluants.
C'est Lia qui irait, et donc pour aller plus loin, téléphone sonne en plastique ce soir, Fabienne.
Absolument, déplastifiez votre entreprise. Expliquez-nous comment vous faites, on vous expliquera comment on fait, nous, à France Inter, et ça se passe au 01 45 24 7000. Des perquisitions, Sébastien, à la mairie de Lyon, au domicile de Gérard Collomb.
Oui, dans le cadre de l'enquête préliminaire révélée par Le Canard Enchaîné sur des soupçons de détournement de fonds publics au profit de l'ex-compagne du maire. Bonsoir Christophe Vincent.
Bonsoir Sébastien.
Elle est employée par la ville depuis près de 25 ans, cette ex-compagne.
Oui, Gérard Collomb est séparé de sa deuxième compagne depuis une vingtaine d'années, mais cette femme occupe des emplois municipaux depuis 1995 comme bibliothécaire ou chargée d'accueil. Dans un rapport, la Chambre régionale des comptes s'interroge sur ses différentes tâches et leur rémunération, et c'est ce rapport transmis au parquet national financier qui a déclenché cette enquête préliminaire et les perquisitions, toujours en cours, semble-t-il, du moins à l'hôtel de ville, où l'on a vu deux policiers en civil entrer en fin de matinée avec des sacs à dos et deux autres ressortir dans l'après-midi avec cinq sacs bien remplis. Gérard Collomb devait s'exprimer dans la soirée, mais finalement, il va diffuser un communiqué. On devine sa ligne de défense amorcée dans une réaction à l'AFP. Il juge ces fuites intolérables et inacceptables, alors qu'il a lui-même diligenté une enquête administrative et il estime que ces attaques sont politiques à 10 mois des municipales.
Christophe Vincent en direct de Lyon, merci. Rachida Dati porte plainte dans l'affaire Carlos Ghosn pour dénonciation calomnieuse de la part d'une actionnaire de Renault. Plainte qui donne lieu à une enquête préliminaire pour corruption et abus de biens sociaux qui vise l'ancienne ministre candidate à la mairie de Paris ainsi que le criminologue Alain Bauer. Rachida Dati aurait touché 900 000 euros en 3 ans pour des missions de conseil en tant qu'avocate. Au procès Balkany pour corruption, la parole aujourd'hui au seul témoin, un homme venu de Genève dont le métier consiste consiste à vendre des sociétés du Panama. Bonsoir Sarah Guibaudot.
Bonsoir.
Sauf que les professionnels suisses, comme certains paradis fiscaux, ne gardent pas les secrets, aussi bien que dans le passé.
Grand et sec, un léger accent suisse-allemand, Marc Angst crée depuis 30 ans des structures pour des clients qui veulent rester discrets. En 2009, l'avocat Arnaud Claude lui amène le bras droit de Patrick Balkany. Jean-Pierre Aubry se présente comme un agent immobilier qui va toucher une commission de 5 millions de dollars. Ils veulent une société du Panama et un compte à Singapour. La commission versée, Aubry achète la maison à Marrakech, logée dans une deuxième société panaméenne. La fiduciaire suisse facture 15 000 euros par an, payée en cash. Mais fin 2013, son nom sort dans Mediapart avec celui des Balkany. Le témoin prend peur. J'ai appelé Arnaud Claude. Il m'a dit « Marc, je jure sur la tête de mon fils. Votre client est Monsieur Aubry. » Le Suisse file quand même à Paris. Dans le bureau de l'avocat Arnaud Claude, l'attend Jean-Pierre Aubry qui lance « Vous savez que je porte pour mon ami Balkany. J'ai fait une erreur, mais je lui dois énormément. Et même si je vais en prison, je vais le défendre jusqu'au bout. » Le gestionnaire suisse démissionne et envoie pour solde de tout compte un chèque de 190 000 dollars qu'il laisse au nom de Jean-Pierre Aubry. Le président rappelle qu'il n'a jamais été encaissé.
Sarah Guibaudot au Palais de Justice de Paris.
Ça discute dur chez les Républicains.
Et il y a beaucoup de questions en attendant le successeur de Laurent Wauquiez. Quand aura lieu l'élection? Qui sera candidat? Et pourra-t-il rassembler avant que les départs pour la majorité ne soient trop nombreux? Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Trop tôt pour donner toutes les réponses, mais on devrait être fixé dans les prochaines 48 heures sur l'élection.
Oui, la haute autorité du parti s'est réunie cet après-midi et devrait rendre ses conclusions sous 48 heures. A priori, elle pourrait suivre l'avis du président par intérim Jean Leonetti et proposer une élection en octobre. Proposition qui devra être entérinée mardi lors du premier bureau politique de l'ère post-Wauquiez. Le président démissionnaire qui à la mi-journée a fait ses adieux au siège parisien de LR, adressant un message d'espoir aux collaborateurs sans aucune amertume, nous dit-on. Puis, avant de rejoindre Lyon, il est allé déjeuner avec Nicolas Sarkozy dans son bureau rue de Miromesnil. L'ancien chef de l'État passait par la même épreuve puisqu'il avait quitté la présidence par intérim du RPR en 1999 après de mauvais scores aux européennes. Il lui a, selon l'entourage de Laurent Wauquiez, prodigué des conseils personnels et politiques sur comment gérer l'après. Les Français vont commencer à te regarder maintenant et le rebond viendra plus vite que tu ne le penses, lui a-t-il affirmé. S'appuyant sur sa propre expérience, on me traitait de traître en 95, on m'a adulé en 2001 et terminant par une égratignure à l'égard du reste de la famille. Par ta décision, tu leur as enlevé la seule chose qu'ils avaient en commun, vouloir te combattre.
Élodie Forêt, quant à la rencontre Gérard Larcher, Xavier Bertrand, elle a bien eu lieu au Sénat. Le président des Hauts-de-France a juste dit à la sortie qu'il avait beaucoup de sujets chez lui, Ascoval, Renault, et que rien ne le détournerait de sa mission. Bref, pour l'instant, il reste en retrait. Les stocks de sang n'ont pas été aussi bas en France depuis 8 ans et ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler. L'établissement français du sang n'a plus que 85 000 poches et il lance un appel au secours avant même la journée mondiale des dons, le 14 juin, vendredi prochain, la semaine prochaine. Les collectes sont organisées parce que celles de mai n'ont pas été bonnes avec les ponts. Comme aujourd'hui, au théâtre de l'Odyssée à Périgueux, Léa Guedes, vous avez rencontré Jean-Pierre, un donneur habitué.
Jean-Pierre aura bientôt 71 ans, c'est la limite pour donner son sang.
Ah oui, 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 j'y suis. Vous voulez voir ma carte? Eh bien, ma carte de donneur. Eh bien, on l'a renouvelée déjà deux ou trois fois parce qu'elle était pleine. Je donne depuis un demi-siècle. Hein. Je dois approcher une centaine de dons, c'est-à-dire que j'ai calculé que ça faisait à peu près 45 litres de sang que j'avais donné. C'est un acte citoyen. J'ai eu dans ma famille des besoins où les transfusions étaient assez régulières. On reconnaît là l'utilité de donner le sang.
Avant le prélèvement, Jean-Pierre est examiné par le docteur Bruno Girol.
A positif et aujourd'hui c'est votre dernier don.
Tout à fait.
Donc je vais vous poser quelques questions, vous les connaissez par cœur.
Pour le docteur, chaque don est une petite victoire.
Il faut savoir que 95% des gens trouvent que le don du sang c'est une bonne chose, mais que seulement 5% des gens donnent. Ça prend en gros une heure, le temps de venir, le temps de manger après le don, et un don sauve 3 vies en moyenne.
Jean-Pierre n'a pas peur de l'aiguille, sous les mains expertes de l'infirmière Emeline.
C'est relativement rapide, c'est entre 5 et 10 minutes à peu près. Voilà.
Très heureux d'avoir donné. J'ai une grande chance et on m'a dit que c'était parce que j'avais une santé insolente.
Et avec sa santé de fer, Jean-Pierre vient de donner le maximum, 480 millilitres de sang.
Reportage signé Léa Gage de France Bleu Périgord. Les putschistes sont-ils en train de faire machine arrière au Soudan où les manifestants demandent le transfert du pouvoir aux civils depuis le départ d'Omar El-Béchir il y a 2 mois? L'armée propose de renouer le dialogue avec l'opposition après la répression de la contestation lundi devant son QG à Khartoum dont le bilan est maintenant de 101 morts d'après les médecins. Sur place pour Inter, Sébastien Nimet.
Alors que la tuerie du sit-in a entraîné une vague de condamnations internationales, les putschistes semblent sur la défensive. Après avoir annoncé l'arrêt total du dialogue et l'annulation de tous les accords conclus avec la coalition civile, Abdel Fattah al-Burhan, leader de la junte, a déclaré qu'il était prêt à reprendre les négociations sans conditions préalables. Sans expliquer ce changement de stratégie, l'officier a déclaré que le conseil militaire était prêt à ouvrir ses bras au dialogue avec toutes les parties dans l'intérêt du pays. Emeti, le chef des forces de soutien rapide, la milice paramilitaire accusée d'être la première coupable du massacre, a accusé des Soudanais d'avoir usurpé l'identité des FSR pour terroriser les civils. Une affirmation difficile à croire alors que de multiples témoignages affirment que les miliciens étaient en première ligne du bain de sang avec uniformes et véhicules très reconnaissables. Certains de leurs éléments sont même accusés d'avoir porté des uniformes de policiers pour s'en prendre aux civils. Sébastien Nemeth, Khartoum, RFI pour France Inter.
Et les chefs de la contestation font savoir ce soir qu'ils rejettent l'offre de dialogue de l'armée. Pas de tennis à Roland-Garros aujourd'hui, il suffit de regarder dehors pour comprendre. Tous les matchs annulés à cause de la pluie, les derniers quarts de finale, femmes et hommes. Les billets seront remboursés et les spectateurs d'aujourd'hui peuvent venir demain dans la limite, comme on dit, des places disponibles. Deux infos foot, le départ de Gianluigi Buffon du PSG, le gardien italien un peu vétéran. 41 ans.
Ah, vous avez écouté le 18h, vous.
Oui, oui. Du coup, j'ai regardé l'âge. 41 ans, il sera resté qu'un an à Paris. Mmh. Et puis Gianni Infantino, lui, réélu pour un deuxième mandat à la tête de la FIFA. En même temps, il était le seul candidat. On termine avec du cinéma et un premier film présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, Les Particules de Blaise Harrison. Bonsoir Jacqueline Petrose.
Bonsoir Sébastien.
L'histoire intrigante d'une bande d'adolescents et de certains d'entre eux qui se retrouvent confrontés à des phénomènes fantastiques.
Alors c'est un film attachant, hypnotique. Pierre-André traîne sa vie d'ado, dégingandé, ailleurs, encombré de son corps. Son univers, c'est les copains, le bahut, le chahut, un peu d'herbe, la musique et cette jeune fille avec laquelle les regards se croisent avant de se prendre pudiquement la main. Et il y a ces choses qui arrivent. Une nuée d'oiseaux, des lueurs, des sensations et l'impression, tous les deux, d'être vraiment décalés.
Tu sais, parfois moi aussi je me réveille. Et c'est comme si le monde n'était plus pareil. Comme s'il changeait et que personne d'autre s'en rendait compte. Reste avec moi.
Les phénomènes surnaturels s'accentuent après la visite de leur classe de terminale au CERN, le centre d'études nucléaires, et son fameux accélérateur de particules, jusqu'à la disparition de l'un des leurs. Blaise Harrison a tourné en faisant partie de la bande, au plus près de l'ennui, des rires, des complicités, et dans un paysage qui est celui de sa propre adolescence. Le film, certes, a des longueurs, mais des vérités qui font penser à la nouvelle vague. Cadrage, gros plans, ellipses, et une musique captivante, proche de Twin Peaks. C'est un premier long-métrage étrange, un peu déroutant, mais très prometteur.
Intriguant, c'est le mot à vous entendre. Merci Jacqueline Petrose. Les Particules de Blaise Harrison, c'est donc en salle aujourd'hui.
Sébastien Power pour le journal. Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve demain. Nous, on reste ensemble pour Le Téléphone Sonne. Merci de passer la soirée avec nous.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Sébastien Léas, les orages éclatent sur le nord-est.
Oui, l'instabilité s'accentue. Des orages viennent d'ailleurs de traverser Besançon. Et cette ligne orageuse s'approche dangereusement de Vesoul, Vittel et Nancy. Et des orages localement forts vont continuer de se développer jusqu'en première partie de nuit. 11 départements entre le Grand Est et la Franche-Comté ont été placés en vigilance orange jusqu'à ce soir minuit. De la grêle, des rafales dépassant 100 à 120 km par heure et de nombreux coups de foudre sont à craindre sur ces départements en vigilance. Plus à l'ouest, la perturbation pluvieuse va peu à peu se décaler et perdre de l'activité en cours de nuit. Demain matin, on retrouvera juste quelques averses résiduelles entre l'Alsace et les Alpes.
Donc, accalmie temporaire pour demain.
Oui, dès le matin, le ciel alternera entre belles éclaircies et paquets nuageux. Quelques grisailles matinales retarderont l'arrivée de ces éclaircies, notamment entre les terres normandes, la vallée de la Loire et entre les bords de la Garonne et le Limousin. Autour du golfe du Lion, le soleil sera généreux et gagnera même du terrain jusqu'à la Provence et la Côte d'Azur, ainsi qu'à jusqu'à l'ouest de la Corse l'après-midi. Sur le reste du pays, les éclaircies auront tendance à s'élargir, mais entre la Bretagne, les pays de la Loire et la Normandie, les nuages vont à nouveau se multiplier, donneront même des averses. Ces averses seront surtout nombreuses l'après-midi, mais les premières gouttes aborderont les côtes atlantiques avant la mi-journée. Ça nous annonce un vendredi particulièrement agité. Côté température, la chaleur s'évacue vers l'est et on retrouvera des maximales plus homogènes demain après-midi. Il fera 15 à 26 degrés du nord-ouest au sud-est avec 20 degrés pour Paris, Reims, Mulhouse, Nantes et La Rochelle et 23 degrés à Lyon, Montpellier, Nice et Agen.
Sébastien Léas de Météo France, merci.